VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 15 avril 2016. Au sommaire ce soir.
Au Congo-Brazzaville, investiture demain du président réélu Denis Sassou Nguesso sur fond de tensions politiques.
Et à Maya, par où va arriver la dizaine des chefs d'État attendus à cette cérémonie d'investiture? L'armée a positionné des engins blindés prêts à toute éventualité.
Le Ghana et le Togo, prochaine cible potentielle des militants islamistes, selon un document des services d'immigration du Ghana.
Les accusations de fraude se multiplient au Tchad dans l'attente des résultats de la présidentielle du 10 avril.
Le Mali et le monde artistique en général perdent un des pionniers de la photographie africaine. Malik Sidi Bé est mort jeudi soir.
Plus de 200 personnes tuées depuis dimanche. Tel est le bilan des combats qui ont repris à Alep, la deuxième ville de Syrie, mettant en danger les perspectives d'une solution politique.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
À Brazzaville, la manifestation d'unité et de paix prévue au boulevard Alfred Raoul n'a pas eu lieu. Elle n'a pas été autorisée par la préfecture. Sur place, Ngolan Goussou.
Aucun militant, aucun leader de l'opposition au boulevard Alfred Raoul où devait avoir lieu la marche de l'opposition pour la paix et l'unité du Congo. D'ailleurs, Claudine Mounari, qui avait appelé à cette manifestation, n'a pu quitter sa maison assignée à résidence depuis 3 jours. Tout comme deux autres opposants, Jean-Marie, Michel Mokoko et André Okombi Salissa, dont les domiciles sont encerclés par la police. Le boulevard Alfred Raoul, où il y avait cet après-midi une intense circulation de voitures, est plutôt en train de se parer en lieu de fête, car demain samedi, le président Denis Sassou Nguesso prête serment à cet endroit pour un nouveau mandat de 5 ans. Les unités de la sécurité et de la garde présidentielle paradent, armes au poing, dans la ville, sans compter les militaires et les policiers postés dans les principaux carrefours de la capitale. À l'aéroport international de Mayamaya, par où va arriver la dizaine des chefs d'État attendus à cette cérémonie d'investiture, l'armée a positionné des engins blindés prêts à toute éventualité. Dans l'ensemble, le calme règne ce soir à Brazzaville. Ngolan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En RCA, le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres. Quels seront les axes prioritaires de l'action gouvernementale? On sait que le pays fait face à plusieurs défis, notamment au plan sécuritaire et humanitaire. Écoutons le reportage de Freeman Sipila.
Avant la réunion, le président centrafricain s'est d'abord entretenu individuellement avec chaque ministre. L'occasion a permis à Faustin Archange Touadéra de connaître certains de ses collaborateurs encore inconnus. Au cours de la réunion, le chef de l'État a donné des directives précises aux ministres.
J'attends de vous que tous les dossiers soient traités avec célérité, afin de les conduire à terme dans les meilleurs délais. Comme vous le savez, j'attache du prix au respect des engagements que j'ai pris auprès de nos concitoyens. D'autre part, sur la base du projet que j'ai soumis à nos compatriotes, je vous demande de faire adopter par le gouvernement, dans les 60 jours, un programme de gouvernement qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale.
Le nouveau gouvernement, dirigé par Simplice Mathieu Sarandi, est constitué de 23 membres, dont 4 femmes. Les dernières passations de service avec les ministres du gouvernement sortant se sont déroulées jeudi à Bangui. Freeman Sipila, Bangui. VOA Afrique.
Le Ghana et le Togo sont les prochaines cibles d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, après les récentes attaques terroristes de grande envergure au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. L'information provient d'un document du service de sécurité ghanéen qui a fait l'objet d'une fuite. Jacques Aristide.
La menace d'une attaque terroriste au Ghana est réelle, indique le secrétariat du Conseil de sécurité nationale dans une note adressée au département d'immigration du pays, appelant à une surveillance accrue des frontières, de même qu'au profilage complet des personnes venant notamment du Mali, Niger et de la Libye. Le président John Mahama a tenu à rassurer les Ghanéens.
We have trained our own special forces.
Nous avons formé nos propres forces spéciales. Nous nous préparons à une telle éventualité, mais nous avons besoin de la vigilance du public, a-t-il déclaré à la radio. Dans sa note, l'agence de sécurité ghanéenne, se basant sur ce qui est présenté comme les aveux d'un présumé terroriste interrogé en Côte d'Ivoire, indique que le Togo, voisin du Ghana, est également dans le collimateur des djihadistes d'ACMI.
Rwanda, Léon Mugesera a été condamné à Kigali à la réclusion à perpétuité pour incitation au génocide des Tutsis en 1994. L'ancien responsable du parti du président assassiné Juvenal Habyarimana avait été extradé par le Canada en 2012. Les juges ont reproché à l'accusé, 63 ans, un discours anti-Tutsi prononcé en 1992 dans l'ouest du Rwanda. Les magistrats ont estimé que ce discours était un des événements qui avait amorcé le génocide. Les Tutsis y étaient traités de cafards et les Hutus encouragés à les tuer.
Le Mali et l'Union européenne se sont accordés pour gérer ensemble l'immigration. L'idée est de financer des projets pour lutter contre les causes poussant les Maliens à quitter leur pays. Il s'agira aussi de promouvoir la migration légale selon un communiqué conjoint publié aujourd'hui au terme de la visite à Bamako du ministre néerlandais des Affaires étrangères dont le pays assure la présidence de l'Union européenne. Bert Koenders, en tournée africaine au nom de l'Union européenne, doit également se rendre au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Aux Comores, le colonel Azali Assoumani, ex-putschiste, a été élu président. Selon les résultats donnés par la commission électorale, M. Assoumani a obtenu 40,98% des suffrages à l'issue du second tour de dimanche. Âgé de 57 ans, il était soutenu par l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. M. Assoumani avait déjà dirigé les Comores au début des années 2000. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en avril 1999, il avait gardé les rênes du pays et a été élu président 3 ans plus tard.
Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe exclut toute démission du chef de l'État, mise au point qui fait suite à une importante manifestation d'opposition hier. Morgan Tsvangirai, chef du MDC, a rassemblé plus de 2000 manifestants dans la capitale Harare pour exiger la démission du président Robert Mugabe. Cette mobilisation est la plus importante qu'a connue le pays depuis près de 10 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au gain de violence en Syrie, plus de 200 combattants de différentes forces armées ont été tués depuis dimanche dans les combats faisant rage dans la province d'Alep, dans le nord du pays, a affirmé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Salwa Jafari.
Alep, quartier général al-Mashhad, bastion de l'armée syrienne libre, une centaine de manifestants demandent le départ de Bachar al-Assad et se félicitent de leurs derniers exploits.
Nous manifestons aujourd'hui pour soutenir les victoires de l'armée syrienne libre qui ont eu lieu hier.
Pourtant, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait plus de 200 morts parmi les différentes factions armées depuis dimanche. Ce regain de violence survient alors que des pourparlers pour un règlement politique de cette guerre ont lieu à Genève sous l'égide de l'ONU. La délégation du régime syrien est arrivée vendredi en Suisse pour participer à ces négociations indirectes avec les rebelles. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, 30 000 civils ont fui en 48 heures les combats opposant les djihadistes du groupe État islamique aux rebelles dans les secteurs de la province d'Alep, bordant la frontière avec la Turquie.
Les pays riches et émergents du G20 financent, veulent se doter des moyens de savoir qui se cache derrière les sociétés offshore au cœur du scandale des Panama Papers. Après une réunion à Washington, ils devaient publier un communiqué à cet effet ce vendredi. Il s'agit de la première réponse internationale à l'onde de choc des Panama Papers qui a révélé un vaste système d'évasion fiscale via des sociétés écrans dissimulant l'identité de leurs réels bénéficiaires. Les ministres des Finances du G20 estime qu'améliorer la transparence sur les ayants droit est vital pour protéger l'intégrité du système financier international.
La Russie profitera la semaine prochaine d'une réunion avec l'OTAN, une première en 22 mois, pour protester contre le renforcement militaire absolument injustifié, selon Moscou, de l'Alliance dans les pays baltes depuis la crise ukrainienne. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui son ambassadeur à Bruxelles. Les incidents cette semaine entre un destroyer américain, le Donald Cook, et deux avions de combat russes qui l'ont survolé à plusieurs reprises dans les eaux internationales de la mer Baltique au large de l'enclave russe de Kaliningrad sont venus rappeler que les tensions restent à un niveau jamais vu depuis la fin de la guerre froide.
L'Organisation de la coopération islamique OCI a condamné le soutien continu au terrorisme de l'Iran dans un communiqué publié aujourd'hui à l'issue de son 13e sommet à Istanbul, auquel une trentaine de chefs d'État ont participé. Les représentants de 56 pays ont participé hier et aujourd'hui au sommet de l'OCI, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani. Selon l'AFP, qui cite des médias iraniens, M. Rouhani et sa délégation n'ont pas participé à la réunion de clôture du sommet pour protester contre ces mises en cause.
L'avocat général de l'État brésilien, José Eduardo Cardoso, a dénoncé ce vendredi une tentative de coup d'État devant les députés qui se penchent sur la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Un gouvernement qui naîtrait d'une rupture institutionnelle n'aura aucune légitimité, a-t-il averti. Lors d'un vote prévu dimanche soir, l'opposition devrait rallier les suffrages des deux tiers des membres de la Chambre basse, soit 342 sur 513, pour que la destitution de Mme Rousseff soit soumise à l'approbation finale du Sénat. Dans le cas contraire, la procédure serait automatiquement enterrée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
On passe à la Minute Écho avec John Lindon.
Au Sénégal, 40 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera injectée dans Air Sénégal SA, la nouvelle compagnie aérienne nationale qui remplace la défunte Sénégal Airlines. L'arrivée des potentiels partenaires devrait permettre de porter le capital de la nouvelle compagnie à 100 milliards de francs CFA, a fait savoir Mme Maïmouna Ndoye-Seck, la ministre sénégalaise du tourisme et des transports aériens. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce jour à Dakar. Cameroun, la filiale de l'opérateur des télécommunications sud-africain MTN annonce le lancement d'une campagne nationale pour renouveler l'identification de ses abonnés. La campagne qui vise à confirmer l'identification des abonnés MTN et à identifier ceux qui ne le seraient pas encore s'étendra jusqu'au mois de juin prochain, souligne l'opérateur. Pour être identifié, l'abonné peut simplement envoyer un SMS gratuit au 87 58. Le Nigeria a cédé son statut de plus grand producteur de pétrole d'Afrique à l'Angola. D'après le site Financial Afrique, la production de pétrole brut du Nigeria a chuté à 1 677 millions de barils par jour en mars 2016. À la même période, la production pétrolière angolaise est passée à 1 782 millions de barils par jour.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John.
L'actualité sportive, ce vendredi, nous avons avec nous Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Commençons par parler de la CAN de futsal 2016 qui débute ce vendredi à l'Ellis Park de Johannesburg.
Au programme, les rencontres dès ce vendredi, Afrique du Sud, Mozambique et Zambie-Tunisie, comptant pour le groupe A. Et demain, dans le groupe B, Égypte-Libye et Angola-Maroc.
Pas de duel 100% espagnol en demi-finale de la Ligue des Champions.
Tirage au sort effectué ce vendredi au siège de l'UEFA, Manchester City contre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid face au Bayern de Munich. L'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, a déclaré s'attendre à un combat total face aux Citizens.
Europa League aussi, pas de face-à-face entre équipes espagnoles, Nicolas.
Villarreal, Liverpool et Shakhtar Donetsk, Séville sont les affiches des demi-finales de l'Europa League. Liverpool, entraîné par Jürgen Klopp, a fait vibrer les fans de football hier soir. Menés 2-0 puis 3-1, les Red Devils du technicien allemand ont réussi à renverser le cours de la rencontre pour s'imposer 4-3 dans un match fou contre Dortmund et se qualifier pour les demi-finales. Liverpool et Villarreal ne se sont jamais rencontrés sur la scène européenne. L'autre affiche est plus équilibrée avec deux habitués de la C3, Séville, double tenant du titre, tandis que Shakhtar Donetsk a soulevé une fois le trophée en 2009.
Et on reparle de Michel Platini.
L'audition du président de l'UEFA devant le tribunal arbitral du sport pour contester sa suspension de 6 ans de toute activité liée au football aura lieu le 29 avril. L'ancien triple ballon d'or a été suspendu par la justice interne de la FIFA dans le cadre de l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros reçu de la part de Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Kiriek, Chérubin, Gaby Dorsil en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour. Première escale ce soir, Morgane.
Le Tchad. 5 jours après l'élection présidentielle, le dépouillement se poursuit à travers le pays. À Sar, chef-lieu de la région du Moyen Chari, situé au sud du Tchad, plus de 60 procès-verbaux ont disparu au lendemain de ce scrutin. Le point avec André Kodmadjingar.
Considéré comme le fief du candidat Joseph Dimrangar Datnadi du parti Cap Sur, cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, cette tentative de fraude risque de jouer sur lui. Informé de la disparition de ses procès-verbaux, une équipe a été dépêchée sur place pour constater les faits. Béni Toralta Laya, membre de la direction nationale de la campagne du candidat de Cap Sur de retour de Sahara, demande réparation.
Ces procès-verbaux ont été sciemment retirés parce que c'est là où le candidat de Cap Sur a devancé les autres avec un score fleuve. Alors, nous demandons qu'il y ait réparation. On a ramené les procès-verbaux au nombre de 62 procès-verbaux, dont 2 pour la sous-préfecture rurale de Sahara et 60 pour la sous-préfecture de Balimba. Alors, ils veulent réintégrer le délégué de la CENI à refuser. Nous aussi, nous disons que nous n'accepterons pas, parce que c'est fait à dessein pour permettre à ce que le candidat du Cap Sur perde toutes ses voix.
Béni Toralta Laya informe par ailleurs que non seulement sa formation politique exige la démission des membres de la CENI communale mise en cause, mais qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes du pays.
Nous avons demandé la démission de ces deux membres de la CENI et en même temps, nous avons déposé une poursuite au parquet de Sar pour qu'ils soient poursuivis et puni conformément à la loi. Et nous allons aussi préparer une requête pour la Cour constitutionnelle parce qu'on a fait ça sciemment. Si on annule, ça ne nous arrange pas. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se préparer. On vient de nous informer comme quoi le candidat du MPS demande à être élu dès le premier tour avec 64%. Et c'est en éliminant là où les autres l'ont battu, c'est comme ça qu'on va procéder à arriver à 64%.
Joint au téléphone par VOA Afrique, Kimto Poyon, l'un des membres de la CENI communale de Sahar mise en cause, rejette cette accusation.
C'est des fausses accusations. On nous accuse pour les 10 PV de la commune de Sahar qui est resté, on a le comprendre. Les 47 PV, nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Et quand ils ont déposé leur plainte, la justice fera son travail et nous aussi, on va rebondir par rapport à cette accusation calomnieuse contre notre personne. Et moi, je vous parle devant Dieu et au nom de Dieu.
Après avoir observé les irrégularités dans le déroulement du vote et la centralisation des procès-verbaux à N'Djamena, le PLD, Parti pour les libertés et le développement, exige de son côté le renvoi de tous les membres de la CENI centrale et leur remplacement par des personnalités plus consciencieuses et compétentes. Car, selon le PLD, ces irrégularités violent de façon flagrante les articles 19 et 73 du Code électoral. André Kodmadjingar N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Cap sur le Burundi, un mois après le lancement officiel des activités de la commission Vérité et Réconciliation par le président, une table ronde a été organisée avec la mission diplomatique accréditée à Bujumbura. Pour ces missions, l'appui technique et financier, estimé à 34 millions de dollars, suppose également la création d'un environnement favorable et d'une législation appropriée. Elle recommande aussi la création, avec tous les partenaires, d'un conseil consultatif international ad hoc. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Toutes les missions diplomatiques étaient jeudi les bienvenues autour de Mgr Jean-Louis Nahimana, président de la Commission Vérité et Réconciliation pour une période de 4 ans. Le président reconnaît l'urgence de la situation politico-sécuritaire prévalant au Burundi, mais il demande un appui technique et financier de 34 millions de dollars américains pour mener à bien les missions lui confiées, pour d'abord avoir une même lecture de tous les événements malheureux qui ont endeuillé le Burundi depuis l'indépendance jusqu'en 2008. Pour Mgr Jean-Louis Nahimana, le moment est propice pour la vérité sur l'histoire du Burundi.
Nous sommes dans une situation difficile. Il y a trop d'affrontements, des intimidations qui peuvent aussi bloquer certains compatriotes. Pour moi, c'est plutôt un climat qui milite justement en faveur du soutien de cette commission. Aujourd'hui, on parle de dialogue. Si le dialogue politique burundais était précédé par ce travail de recherche de la vérité, ça contribuerait à trouver des solutions pérennes, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de dialogue dans ce pays.
Pour le bureau de l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme, il est urgent de créer un environnement favorable et une législation appropriée. Patrice Vahar, représentant.
Cette lourde mais exaltante responsabilité stabilité se double du défi lié aux circonstances dans lesquelles la CVR est appelée à accomplir sa mission aujourd'hui. Créer la confiance auprès des victimes, des témoins et des autres personnes à risque, ainsi que au sein de toute la population, afin d'assurer leur participation au processus dans le contexte de crise actuelle, n'est pas une tâche aisée. Ceci passe nécessairement par la mise en place de mécanismes de protection adaptés aux besoins spécifiques de toutes les catégories des personnes concernées.
L'ambassadeur de France au Burundi estime également qu'il faut créer un environnement favorable. Gerrit Van Rossum s'explique.
Cette assistance alors technique et financière à la CVR suppose quand même aussi un environnement favorable. Il y a au premier plan, bien sûr, l'indépendance de la commission Vérité et Réconciliation. L'indépendance, c'est dans les textes. Et le deuxième élément, c'est l'appropriation par la société burundaise de l'intérêt des mécanismes que va mettre en place la commission Vérité et Réconciliation.
La commission Vérité et Réconciliation est entrée dans le vif du sujet à partir du mois de mars dernier, avec des visites sur terrain. Mais beaucoup de personnes estiment que leur indépendance vis-à-vis de l'exécutif burundais est limitée, dans ce sens que cette commission est mise en place par décret présidentiel. Christophe Nkurunziza, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Et nous partons maintenant en République démocratique du Congo, au sud Kivu. Les activités ont tourné au ralenti hier en territoire de Mwenga, où la société civile a décrété une journée ville morte et des marches pacifiques pour exiger la réhabilitation de la route nationale numéro 2. En très mauvais état, cette route est particulièrement importante puisqu'elle relie la ville de Bukavu à la province du Maniema, en passant par le territoire de Mwenga dans l'est de la RDC. De Bukavu, la correspondance d'Ernest Mouhero.
La majorité des populations du territoire de Mwenga a observé cette journée ville morte à Mwenga Centre, Kasika, Kitutu, Kakemenge, Lugushwa et Kamituga avant 15h. À la place, ce sont des marches pacifiques qui ont drainé les masses laborieuses de ces différentes agglomérations, fatiguées de voyager dans des conditions infrahumaines faute de routes en bon état. Le président de la société civile sous noyau de Kamituga, Ileon Bubenga, donne les motivations de ces actions citoyennes.
La route se dégrade de Kalambi jusqu'à Luino, de Bourbier. Tellement approfondi, Kamituga Bukavu, on peut faire 10 jours pour atteindre Bukavu. Et cette route est catastrophique. Donc si aujourd'hui quelqu'un tombe malade, l'ambulance ne peut pas circuler, les personnes handicapées ne savent plus comment se comporter. Pour évacuer peut-être un cadavre, là il faut transporter les cadavres sur les motos.
Dans les mémorandums des manifestants adressés au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, la société civile de Mwenga sollicite la réhabilitation en urgence et menace, si rien ne fait, d'appeler les usagers de cette route à ne plus payer des taxes y afférentes.
De passer 15 jours sans vraiment assurance nécessaire pour trouver la solution, nous allons décréter le territoire de Mwenga sans taxe.
Aux députés nationaux et provinciaux élus de Mwenga, la société civile exige leur retrait du Parlement pour faire front commun à la base. En réaction, le député provincial du terroir, Songa Biembayaya, joint à Bukavu et pour la réhabilitation certes de cette route, mais désapprouve les méthodes et exigences de la société civile.
Le pouvoir a l'obligation de réhabiliter la route. Mais aussi, les transporteurs ont aussi l'obligation de respecter les tonnages. Cette route, dans les temps, il y avait des camions de 6 tonnes et 4 tonnes. Ils commencent à transporter des véhicules avec 15 tonnes, 18 tonnes. Vous n'allez pas me dire qu'une route est terre battue. La route ne doit que s'abîmer. Et ils ordonnent aux députés d'être là dans 15 jours. De quel droit? Qui les a donné ce pouvoir? Ils prétendent arrêter à ne plus payer des taxes. Là, nous aurons affaire aux inciviques et la loi est dans ce pays.
Quant au député national du même territoire, Charlie Wenga, joint à Kinshasa, cette position de la société civile est un appel aux élus de prendre plus au sérieux ces problèmes.
Moi, en tout cas, je partage à 100% la réclamation de ma population du territoire de Mwenga. Normal, ils puissent demander une mission arrêtée pour un temps, notre participation pour la population. Pour dire, nous devons bouger les choses pour que solution puisse être donnée à ce problème de route. Parce que Mwenga, son poumon économique de la province de Chivu.
Signalons que Mwenga Centre est à environ 130 km de Bukavu et Kitutu autour des 230 km. Selon plus d'un témoin, voyager sur ces tronçons est un véritable parcours des combattants. Plusieurs chauffeurs affirment s'être embourbés plus de 10 fois, obligés parfois d'abandonner le véhicule en pleine forêt. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le monde artistique est en deuil au Mali. Le célèbre photographe Malik Sidi Bé est décédé à Bamako à l'âge de 80 ans. Il est considéré comme le précurseur africain de son art. Il a su illustrer l'image inconnue du Mali dans le monde à travers ses portraits sensibles de la vie quotidienne de son pays des années 60. Pour lui rendre hommage, Eric Manirakiza a joint à Bamako un de ses disciples, le directeur de la Médina et commissaire d'exposition Diarra Hugo.
D'abord, c'est une réaction de deuil, de méditation, de réflexion, un sentiment d'une très très grande perte, je dirais pas pour le Mali ni pour l'Afrique, plutôt pour le monde entier, pour l'humanité. Voilà, le vieux lion, c'est le premier photographe qui a eu ce prix à la Biennale de Venise en tant qu'artiste photographe. Donc, c'est une très grosse perte.
Il y a une grosse perte, pourquoi ? Quelle a été sa contribution ?
C'est un monument, Malik, c'est le monsieur au sourire éternel, qui est d'une générosité débordante, qui est toujours prêt à aider les autres, qui est toujours prêt à donner pas des leçons mais des conseils aux différentes générations de photographes en devenir, parce que sa carrière, il a été découvert après Françoise Huguet et André Magnan qui nous ont aidé à organiser les premières rencontres photographiques. C'est comme ça que sa carrière a commencé, bien qu'il soit à la retraite, parce qu'en ce moment-là, il réparait plutôt les appareils de photo. Et donc, une fois que le monde l'a découvert, il a hissé la photographie africaine au plus haut niveau, parce qu'il a eu de nombreux prix et il a tourné dans le monde entier.
Quelle est la valeur de ces œuvres du point de vue culturel dans votre pays ?
Malik, ses photos font connaître le Mali dans le monde entier. Par exemple, la photo de fameux Noël où il montre des jeunes Maliens qui dansaient le tweet. C'est-à-dire que Malik a contribué à donner une image d'abord moderne de l'Afrique après les indépendances. Malik, c'était le studio, c'était les parties. Il était invité à toutes les soirées. Donc, il a pu immortaliser des moments de la jeunesse malienne très moderne après les élections. Voilà, les gens sont surpris de voir qu'on dansait le twist, qu'on dansait le rock, parce que Malik, c'était le photographe de toutes les parties. Et il est même aussi allé à Sotiba lorsque les jeunes allaient à la natation. Donc voilà, je pense qu'il fait partie du patrimoine mondial malien africain de la photographie.
Donc c'est quelqu'un qui va vous manquer.
Oui, mais on va le célébrer parce que ce qu'il a fait, on ne sait pas comment le remercier. Et nous, on lui dit bravo, l'artiste, il est immortel. Il va nous manquer effectivement, mais son héritage, il est dans le panthéon de la culture malienne, africaine et mondiale. Pour l'éternité.
Est-ce qu'il touchait les valeurs traditionnelles du Mali dans sa photographie ?
On ne peut pas avoir photographié le Mali de 60 à nos jours. Évidemment, c'est des photos la plupart du temps en argentique, des photos noires et blancs. Donc, c'est la mémoire des années 60 et 70.
Il laisse donc un héritage important. Est-ce que c'est un héritage qui est protégé ou qui va être protégé ?
Bon, on espère qu'il va être protégé. Malheureusement, il y a une partie qui est gérée par l'extérieur.
Diarra Hugo, directeur de la Médina au Mali.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, Joselle Morissin a assuré la mise en onde à la présentation Morgane Guiriec et chez Robin Dorsil.
On ne va pas oublier Nick Ivanov à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez les sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.